Lorsque ma montre indique 2 heures, j'interromps ma lecture et je me joins au groupe qui visite le bâtiment. Notre guide, Mademoiselle Saiki, est une femme mince, d'environ 45 ans, plutôt grande pour une femme de sa génération. Elle porte une robe bleue à manches courtes et un fin cardigan couleur crème. Elle a beaucoup d'allure. Ses cheveux longs sont attachés par un lien lâche. Elle a un visage raffiné et intelligent, avec de beaux yeux, et un vague sourire flotte en permanence au coin de ses lèvres. Je ne sais pas trop comment dire, mais son sourire donne un sentiment de perfection. Il me fait penser à une petite flaque de soleil qui apparaîtrait au fond d'un endroit secret. Une flaque de soleil avec une forme particulière. Dans le jardin de la maison où j'habitais, à Nogata, il y avait de petites taches de soleil comme ça. Depuis tout petit, j'aime bien les regarder. Cette femme me fait une forte impression et me rend vaguement nostalgique. Je me dis que ce serait bien qu'elle soit ma mère. Mais je me dis la même chose devant chaque femme de cet âge-là que je trouve belle ou sympathique. Ce serait bien qu'elle soit ma mère. Il va sans dire que les chances que Mademoiselle Saiki soit ma mère sont proches de zéro. Mais, en toute logique, la possibilité existe quand même, si faible soit-elle. Parce que je ne sais pas à quoi ressemble ma mère, ni comment elle s'appelle. Et puis, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être ma mère. Les seuls visiteurs, à part moi, sont un couple de quadragénaires d'Osaka. La femme est une rondouillarde avec des lunettes en cul de bouteille. Le mari, lui, est maigre, avec des cheveux si drus qu'il doit avoir besoin d'une grosse brosse métallique pour les discipliner. Il a de petits yeux et un grand front, et fait penser à une statue des îles des mers du Sud, au regard toujours fixé sur l'horizon. La femme assure la majeure partie de la conversation, tandis que le mari acquiesce de temps en temps par monosyllabes. Tous deux sont davantage habillés pour une expédition en montagne que pour visiter une bibliothèque. Chacun porte une veste imperméable munie d'innombrables poches, de solides souliers lacés et un bonnet de montagne. Peut-être s'habillent-ils comme ça quand ils font du tourisme? Ils n'ont pas l'air méchants. Je n'aimerais pas spécialement les avoir pour parents, mais ça me rassure de ne pas être seul pour cette visite. Mademoiselle Saiki commence par faire l'historique de la bibliothèque. En gros, elle raconte ce qu'Oshima m'a déjà expliqué. La bibliothèque a été fondée pour contribuer au développement culturel de la région en rendant accessibles au public les collections de livres et de peintures rassemblées par la famille Komura sur plusieurs générations. Leur fortune a permis de créer une fondation qui gère la bibliothèque et organise à l'occasion des concerts de musique de chambre, des conférences, etc. Le bâtiment date du début de l'ère Meiji, 1868. Il a été construit pour abriter les collections familiales et pour accueillir les visiteurs. Au début de l'ère Taisho, en 1905, il a été complètement rénové. Un étage a été ajouté et des chambres encore plus magnifiques qu'auparavant furent aménagées pour les écrivains et artistes de passage. Pendant l'ère Taisho et jusqu'au début de l'ère Showa, 1925, des hôtes de marque y ont séjourné, laissant de nombreux souvenirs. Pour remercier la famille Komura de les avoir reçus, les poètes offraient des poèmes, les savants des articles, les artistes des dessins. Vous pourrez admirer une sélection d'œuvres de cette précieuse collection dans la galerie du premier étage, dit Mademoiselle Saiki. Avant la Seconde Guerre mondiale, la région devait sa richesse culturelle non pas aux efforts de l'administration locale, mais principalement à des dilettantes aisées telles que les Komura. Autrement dit, ils jouaient le rôle de mécènes. Si la préfecture de Kagawa a fourni un grand nombre de poètes talentueux dans le domaine du tanka ou du haïku, cela est dû en partie à la passion constante avec laquelle la famille Komura a depuis l'ère Meiji fondé et soutenu des cercles artistiques. De nombreux ouvrages, essais et mémoires ont été consacrés à l'histoire de ces fascinants cercles culturels. Vous les trouverez tous dans notre salle de lecture. J'espère que vous y jeterez un coup d'œil si vous avez le temps. Génération après génération, les chefs de la maison Komura se sont passionnés pour les arts, qu'ils savaient apprécier en connaisseurs. C'est peut-être un don, car ils ont toujours su parfaitement discerner le talent authentique du surfait et ont soutenu les plus grands maîtres de leur temps. Cependant, vous le savez, personne n'a un jugement infaillible et ils sont malheureusement passés à côté de certains artistes d'exception qu'ils n'ont pas su soutenir ou recevoir comme ils le méritaient. Ainsi, par exemple, les œuvres du grand poète Santoka Taneda n'ont-elles pas été conservées, ce qui est fort regrettable. D'après le livre d'or de la maison, le célèbre auteur de haïku est pourtant venu plusieurs fois en visite chez les Komura, laissant chaque fois des poèmes et des dessins de sa main. Hélas, le maître de séant ne voyait en lui qu'un mendiant et un vagabond. Il lui battait froid et s'est débarrassé de la plupart des œuvres de l'artiste.
« Quel dommage !» dit la dame d'Osaka d'un air vraiment navré. « Le prix d'un original de Santoka atteindrait des sommets de nos jours. »
Vous avez parfaitement raison. Mais à l'époque, Santoka était totalement inconnu. Il était donc peut-être inévitable que cela se passe ainsi. Bien des choses ne peuvent être comprises qu'avec l'éclairage du temps, dit Mademoiselle Saiki en souriant.
Ma foi, c'est vrai,
acquiesce le mari, avec un fort accent d'Osaka. Ensuite, Mademoiselle Saiki nous fait faire le tour du rez-de-chaussée. Les archives, la salle de lecture, la salle des livres rares. À l'époque où il fit construire cette demeure, le maître des lieux ne voulut pas se conformer au style simple et élégant qu'affectionnaient les artistes de Kyoto et préféra opter pour le style rustique d'une maison villageoise. Cependant, comme vous pouvez le constater, le mobilier et les encadrements sont assez luxueux et élaborés et contrastent avec les lignes épurées du bâtiment. Ainsi, par exemple, les sculptures que vous pouvez admirer sur le bois de cette imposte sont d'un raffinement inégalé. On a fait appel aux artisans les plus célèbres de l'époque pour la construction de cette maison. Nous nous dirigeons ensuite vers le premier étage. Une haute voûte recouvre la partie escalier. La rampe d'ébène est tellement astiquée que je crains d'y laisser des marques de doigts rien qu'en l'effleurant. La fenêtre face au palier est ornée d'un vitrail représentant un daim qui tend le cou pour manger des raisins sur une treille. L'étage comprend deux salons et un vaste hall, qui devait autrefois être couvert de tatamis et servir à des banquets ou à des réceptions. Maintenant, le sol est recouvert de parquets et des dessins à l'encre de Chine, des calligraphies, des rouleaux peints sont accrochés au mur. Toutes sortes d'objets et de souvenirs sont exposés dans la vitrine au centre de la salle. L'un des salons est de style occidental, l'autre japonais. Dans le salon occidental, un grand bureau et une chaise pivotante paraissent encore utilisés. Par la fenêtre, derrière le bureau, on aperçoit une rangée de pins entre lesquels on distingue la ligne de l'horizon. Le couple d'Osaka s'arrête devant chaque objet, chaque peinture, et lit les explications correspondantes dans leur brochure. Lorsque la femme exprime son opinion à voix haute, le mari acquiesce, comme pour l'encourager. Ces deux-là ne semblent pas avoir la moindre divergence d'opinion. Pour ma part, ce ne sont pas spécialement les œuvres exposées qui m'intéressent, mais plutôt les détails de l'architecture. Mademoiselle Saiki s'approche de moi pendant que je contemple le bureau de style occidental. Vous pouvez vous asseoir sur cette chaise si vous voulez. Naoya Shiga et Junichiro Tanizaki se sont assis ici. Le siège n'est pas d'époque, naturellement. Je m'assieds sur le fauteuil pivotant. Pose les deux mains sur le bureau. Qu'en pensez-vous? Vous croyez que vous pourriez écrire, vous aussi? Je secoue la tête en rougissant un peu. Mademoiselle Saiki se met à rire et retourne auprès du couple dans le salon voisin. J'observe sa silhouette, son allure, sa démarche. Ses gestes ont une élégance naturelle. Je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais il y a quelque chose de
spéciale en elle. C'est comme si sa silhouette vue de dos essayait de me dire quelque chose. Quelque chose qu'elle ne peut pas me dire de face. Seulement, j'ignore ce que c'est. Il y a tant de choses que j'ignore. Toujours assis, je fais le tour de la pièce des yeux. Une peinture à l'huile représentant un paysage de bord de mer, sans doute de la région, est accrochée au mur. Le style est ancien, mais les couleurs paraissent très fraîches. Sur le bureau sont posés un grand cendrier et une lampe avec un abat-jour vert. J'appuie sur l'interrupteur, elle s'allume. Sur le mur face à moi est fixée une vieille horloge, qui a l'air très ancienne, mais dont les aiguilles indiquent l'heure exacte. Le plancher, usé par endroits, s'est affaissé et grince quand on marche dessus. Une fois la visite terminée, le couple d'Osaka remercie Mademoiselle Saeki, puis s'en va. Il paraît qu'ils font partie d'un club de poésie classique du Kansai. Je me demande quel genre de poème ils peuvent bien écrire, surtout le mari. On ne peut pas écrire de poésie si on se contente d'acquiescer à tout. Il faut une personnalité un peu plus affirmée pour ça. Mais peut-être qu'un talent caché se révèle en lui quand il prend la plume. Je retourne dans la salle de lecture lire la suite des Mille et une nuits. Dans l'après-midi, quelques personnes s'y installent à leur tour. Nombre d'entre elles portent les mêmes petites lunettes pour la presbytie, ce qui fait qu'elles se ressemblent toutes. Le temps s'écoule très lentement. Tous les gens qui sont là sont paisiblement plongés dans leurs livres. Personne ne parle. Certains prennent des notes. Mais la plupart restent immobiles, absorbés dans leur lecture, tout comme moi. À 5 heures, je remets le livre sur l'étagère et me dirige vers la sortie. Je demande à Oshima, « À quelle heure ouvrez-vous le matin ?»«
À 11 heures, sauf le lundi. C'est le jour de fermeture. Tu veux revenir demain ?»«
Si ça ne vous dérange pas ?» Oshima me dévisage en plissant les paupières.
« Bien sûr que non. Une bibliothèque. » C'est fait pour les gens qui ont envie de lire. Reviens quand tu veux. Dis donc, tu te promènes toujours avec autant de bagages? Ça a l'air lourd. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Des lingots?
Je rougis.
Ce n'est pas grave. Allez, je ne tiens pas vraiment à savoir, dit Oshima.
Puis il se presse la tempe avec le bout de son crayon.
À demain alors.
Au revoir, dis-je. Il me fait un signe en levant son crayon pour me dire au revoir. Je monte dans le train et retourne à la gare de Takamatsu. Dans un restaurant bon marché près de la gare, je commande du poulet pané et une salade, accompagnée de riz. Je demande un bol de riz supplémentaire et prends un lait chaud après le repas. Ensuite, j'achète 2 boulettes de riz aux algues dans une supérette, au cas où j'aurai une petite faim pendant la nuit. Et une autre bouteille d'eau minérale. Puis, je vais à pied jusqu'à l'hôtel où j'ai réservé une chambre. Je m'efforce de marcher à un rythme normal, ni trop vite, ni trop lentement, pour ne pas attirer l'attention. Il s'agit d'un business hôtel assez grand, de 2e catégorie. À la réception, je remplis le formulaire en donnant un faux nom, une fausse adresse et un faux âge, et paye 1 nuit d'avance. Je suis un peu tendu, mais personne n'a l'air soupçonneux. Personne ne se met à hurler « Hé, on voit clair dans tes mensonges. En réalité, tu es un petit fugueur de 15 ans. » Tout se déroule de façon très administrative. Je monte au 5e étage dans un ascenseur brinque-ballant. La chambre est longue et étroite, avec un lit peu accueillant, un oreiller dur, une petite table, une télé minuscule, un rideau fané par le soleil. Dans la salle de bain de la taille d'un placard, je ne vois ni shampoing ni nécessaire de toilette. La fenêtre donne sur un mur d'immeuble. Mais je suis déjà content d'avoir un toit au-dessus de ma tête et de l'eau chaude au robinet. Je pose mon sac à dos sur le lit, m'assieds sur la chaise et essaie de m'habituer à mon nouveau logement. Je suis libre.
Je ferme les yeux et réfléchis intensément à cette liberté. Mais je n'arrive pas très bien à comprendre ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que je suis seul, dans un endroit inconnu. Un explorateur solitaire qui a perdu sa boussole et sa carte. C'est ça, être libre? Je n'en sais rien. Et je renonce à poursuivre ma réflexion. Je prends un bain, m'attarde longuement dans l'eau, puis je me brosse soigneusement les dents. Ensuite, je me fourre au lit et lis un moment. Quand j'en ai assez, j'allume la télé, regarde les informations. Comparé à tout ce que je viens de vivre en une seule journée, les nouvelles me paraissent plutôt fades et ennuyeuses. J'éteins aussitôt et me pelotonne sous la couette. Il est 10 heures, mais j'ai du mal à m'endormir. Fin d'une journée nouvelle dans un lieu nouveau. Voilà, c'était l'anniversaire de mes 15 ans. Et j'en ai passé la plus grande partie dans une bibliothèque un peu étrange et pleine de charme. J'ai fait de nouvelles connaissances. Sakura, et puis Oshima et Mademoiselle Saiki. J'ai eu de la chance, je n'ai rencontré personne de malveillant. C'est peut-être un bon présage. Je pense à ma maison à Nogata et à mon père qui doit s'y trouver en ce moment. Comment ressent-il ma soudaine disparition? Est-il soulagé de ne plus me voir? Ou embarrassé? Mais éprouve-t-il seulement la moindre émotion? Peut-être ne s'est-il même pas rendu compte que je n'étais plus là. Je me souviens tout à coup que j'ai pris son portable et je le sors de mon sac à dos. Je l'allume, compose le numéro de la maison. J'entends tout de suite la sonnerie. Je suis à 700 km de chez moi, pourtant on dirait que le téléphone sonne dans la pièce voisine. Surpris par la proximité inattendue de cette sonnerie, je raccroche aussitôt. Mon cœur bat violemment et tarde à reprendre son rythme normal. Le téléphone marche toujours. Mon père n'a pas résilié l'abonnement. Peut-être ne s'est-il pas encore aperçu que son portable n'était plus dans le tiroir de son bureau. Je remets l'appareil dans la poche latérale de mon sac à dos, éteins ma lampe de chevet, ferme les yeux. Cette nuit-là, je ne fais pas de rêve. Quand j'y pense, ça fait un bon moment que je n'ai pas rêvé.